A 1, 2, 3, 4.
Le manche disque. L'émission qui tourne,
qui tourne, qui tourne, qui tourne.
À 33 tours minutes.
Bonsoir, chers auditeurs, bonsoir, chers auditeurs et auditrices, c'est Julien et Nico, on commence bien l'année avec une jolie bafouille pour notre 9e émission du Manche Disque. Salut Julien, ça va?
Oui.
Tu vas bien? Bonne année à toi mon pote.
Bonne année, bonne année.
Et bonne année à tous nos auditeurs, bonne année à tous les Manche Disques. On va débuter cette année 2020 avec notre 9e émission dans laquelle on va s'écouter du son des années 80, de la musique de film, de la librairie italienne, le tout sur vinyle bien sûr, c'est le concept de l'émission. On vous expliquera, et vous qui commencez votre collection, ça va peut-être vous intéresser, où trouver des vinyles d'occasion. Et on aura le plaisir bien sûr d'écouter l'interview d'un passionné de vinyle en fin d'émission. Bref, c'est comme d'habitude, comme dans le Manche Disque, comme à la radio.
Ce sera tout à fait radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots, des mots, comme la radio. Ça ne dérangera pas. Thank you. Mais n'ayez pas peur. On sait ce que c'est que la radio. Radio. Il ne peut rien s'y passer. Rien ne peut avoir d'importance.
Et on a commencé cette émission avec le morceau titre du troisième album de l'excentriquement géniale Brigitte Fontaine, Comme à la radio, paru en 1970. Donc à l'origine, les morceaux de cet album ont été écrits pour des représentations théâtrales qui ont eu lieu une année plus tôt, en 1969. Et pour cet album, qui marque aussi, et c'est pas rien, la rencontre de Brigitte Fontaine et Areski, compositeur et musicien qui deviendra plus tard son mari, c'est l'Art Ensemble of Chicago qui assure l'interprétation musicale. Brigitte Fontaine, pour moi, qui suis totalement fan de ce qu'elle fait, elle fait partie des artistes français extrêmement sous-cotés dans notre pays, si on la compare par exemple avec Serge Gainsbourg, qui suscite une fascination, que vraiment je vénère aussi, hein, Serge Gainsbourg, mais enfin, c'est le contraste entre les deux qui me trouble un petit peu, parce que ce qu'elle fait, c'est vraiment très 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 intéressant, et on devrait être très fiers en France d'avoir une artiste comme elle. Son regain de popularité et sa gloire, finalement, elle l'a eu plus dans d'autres pays très lointains, que ce soit outre-Atlantique, aux États-Unis ou au Japon. Notamment aux États-Unis, je pense à des propos élogieux qu'ont pu faire Beck ou encore Sonic Youth sur son œuvre, qui a fait que leur réservoir de fans à ces artistes-là se sont un petit peu jetés sur les disques de Brigitte Fontaine. Et forcément, il y a un label américain, Superior Viaduct, qui a eu la bonne idée, qui a compris qu'il y avait un petit filon peut-être, et qui a réédité deux albums parmi les trois premiers de Brigitte Fontaine, dont ce fabuleux Comme à la radio. C'est d'ailleurs une de ces rééditions qu'on vient d'écouter là, une ces rééditions que je possède, que j'ai fait venir du coup par la poste des États-Unis, parce que figurez-vous qu'en France, nada, point de réédition récente. Voilà, donc c'est mon premier coup de gueule de l'année peut-être.
C'est dommage, ouais.
Dommage que ce soit des Américains qui revalorisent des artistes comme Brigitte Fontaine, qui s'est produite d'ailleurs, je crois, il y a pas très longtemps en Mayenne au 6x4 à Laval.
Ouais, elle a de la tuile, elle vient de sortir un album.
En plus, elle vient de sortir un album, donc elle a peut-être quelque chose à promouvoir. Faudrait suivre ça. Mm-hmm. J'ai parlé de Sonic Youth. Elle a aussi enregistré dans les années 2000 des morceaux en duo avec Sonic Youth. Du coup, voilà.
Ça doit être quelque chose.
Ça doit être quelque chose. Ouais. Là, c'était vraiment du Brigitte Fontaine très très au début. Hein, donc, à l'année 70, Sonic Youth, c'était plus dans les années 2000. Donc, c'est vrai qu'elle a une carrière très 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 longue. On va enchaîner avec un autre son, mon cher Julien.
Tout à fait. Alors. je vais juste préciser, il ne s'agit pas de library italienne, il s'agit de musique de film en fait. Mmh. Je vais vous passer un morceau d'une compilation qui s'appelle Esterno Note, volume 1, qui a édité chez Four Flies Records, donc le titre fait vraiment penser à Quatre Mouches de velours gris, le film bien connu. Donc là c'est le premier volume d'une série puisqu'il y a un volume 2. Il y a également un Esterno Note Jazz, il y a un Esterno Giorno avec des morceaux un peu plus musicaux, et il y a Esterno Giorno d'Estate qui est là, jour d'été, quoi, qui est encore plus lumineux. Alors, ce sont des séries de compilations d'urban jazz funk, de late night breaks, de cinématique prog et de psyché qui viennent de films, enfin des archives du cinéma italien des années 70 jusqu'à 1976 à peu près, qui ont tous pour particularité d'être un peu moins connus. Hein, c'est pas du Ennio Morricone, c'est pas du Cipriani, comme j'aurai l'occasion de vous en passer dans de futures émissions. Là, c'est un peu plus confidentiel. Et justement, je vais vous proposer d'écouter un morceau qui vient de Velluto Nero, qui date de 1976, et qui est un film de la série des Emmanuel, réalisé par Brunello Rondi. Et donc, c'est un morceau de Alberto e Dario Baldan Bembo. un peu de musique, un peu de cinéma italien sur Radio G 101.5. Vous êtes bien avec le Manche Disque.
J'ai dit librairie tout à l'heure en introduction.
Mais ça aurait pu.
Mais j'ai dit aussi musique de film parce que je faisais référence à un autre morceau que tu vas passer plus tard. Donc j'avais qu'à moitié tort finalement.
Non, mais c'est très bien quand même.
Ouais. Bon, mais si on parlait un petit peu collection, si on parlait un petit peu recherche de vinyle...
Puisque... c'est vrai qu'on s'est dit effectivement qu'on passait pas mal de disques, mais qu'on n'en discutait pas tant que ça, et qu'on allait pouvoir un peu vous présenter les différents aspects de la chaîne du vinyle, j'ai envie de dire, de l'achat jusqu'à l'écoute, et comment se procurer des disques, sur quoi les lire, le matos, comment les entretenir, etc. Et là, peut-être qu'on va commencer avec, pour une première fois, où acheter des disques, comment se procurer des disques. Vous voulez débuter une collection, on vient de vous en offrir, ou soit on vous a offert une platine à Noël, ou on vous a offert un disque et vous voulez démarrer une collection. On va pouvoir vous présenter quelques manières de vous acheter des albums.
Et précisons bien que pour aujourd'hui, on va évoquer les disques d'occasion. Parce que les disques neufs, il n'y a pas besoin, de vous dire trop où les acheter. Les disquaires en vendent, les grandes plateformes culturelles en vendent aussi. Mais les disques d'occasion, ça peut être un petit peu plus difficile à trouver. Donc tu veux peut-être commencer, Julien, par là. Le premier des lieux où on peut acheter des disques d'occasion,
C'est la boutique, les boutiques
de
professionnels,
les disquaires.
Alors vous qui nous écoutez à Angers ou ses alentours, on est plutôt vernis dans la ville d'Angers puisqu'on en a au moins trois faciles, voire un quatrième, mais que moi j'ai pas eu l'occasion encore de découvrir. Donc vous les connaissez très certainement, surtout qu'on a passé les interviews de la plupart d'entre eux maintenant.
Et d'autres seront à venir d'ailleurs.
CDBD, Home Wax, Exit Music for a Drink.
Ça c'est pour ceux qu'on a passé.
Voilà, et on en passera d'autres. Alors bon, il y a toujours des petits avantages, des inconvénients, ça reste à voir, mais les avantages, c'est que on peut acheter avec une certaine confiance. Le vendeur, il sait ce qu'il vend. Il vend normalement de la bonne qualité, sinon il ne vend pas longtemps.
Il a testé ses disques.
Il les a même parfois nettoyés. L'avantage aussi, c'est les conseils de spécialistes, parce que c'est quelqu'un qui va apprendre peut-être à vous connaître, à discuter, qui va vous dire tiens, je viens de rentrer ce titre-là, cet album-là, ça va te plaire, ou tiens, pourquoi t'écouterais pas ça. Les prix aussi, parce que je vais vous parler d'une autre manière plus tard d'acheter des disques, mais qui a un sacré inconvénient que sont les frais de port. Là, il n'y a pas de frais de port. Enfin, ça se répercute un petit peu sur le prix. C'est pour ça que le prix va être peut-être un chouïa plus élevé que ce qu'on peut trouver sur Internet. Mais c'est pas toujours. Après, les inconvénients, effectivement, c'est des prix parfois un petit peu élevés quand même. Mais bon, il faut bien que les disquaires vivent, il faut qu'ils payent leur loyer, etc.
Des prix à la cote, en fait, grossièrement à la cote. Après, forcément, en fonction du commerce, il y a des marges qui sont plus ou moins nécessaires de faire pour les disquaires. Mais c'est pas non plus exorbitant comparé à ce qu'on peut trouver.
Non, mais vous ferez pas... c'est pas le lieu pour faire la trouvaille d'un album de Jimi Hendrix, édition générale. Vous l'aurez pas à 5 euros, quoi. C'est pas la peine de faire tous les disquaires du coin ou de chercher dans les bacs à 5 balles qu'il y a devant la boutique, c'est pas là que vous le trouverez. Là, ce sera une autre manière de procéder.
On en parlera tout à l'heure d'ailleurs, mais effectivement, le disquaire, il sait ce qu'il vend. Il est professionnel du disque, il connaît les codes par cœur. Quand il connaît pas, il sait où aller regarder et donc vous n'allez pas faire l'affaire du siècle chez lui. Mais on peut trouver des choses intéressantes qu'on a du mal à trouver ailleurs. Et comme tu dis, le fait qu'il n'y ait pas de frais de port, c'est quand même un sacré avantage.
Oui, tout à fait.
Alors, moi, je vais me rapprocher un petit peu de ce mode de trouvaille, puisque je vais évoquer maintenant les conventions qui seront approche vraiment en termes d'avantages et d'inconvénients du disquaire. On en a parlé. C'est un regroupement de vendeurs. Donc on en a parlé le mois dernier pour la convention de Nantes, pour laquelle on a fait gagner des invitations, etc. Donc les conventions, c'est comme on vient de le dire, un regroupement de disquaires à l'échelle nationale ou internationale, souvent sur un ou deux jours. L'entrée, elle peut être payante d'ailleurs pour les acheteurs. Quand on rentre là-dedans, on se retrouve dans un véritable supermarché ou hypermarché même du vinyle. Alors les avantages, c'est forcément qu'il y a une variété vertigineuse de vinyles proposés à la vente. Donc c'est vraiment l'occasion de trouver enfin un vinyle très rare que l'on cherche depuis longtemps. S'il y a un lieu pour le trouver, c'est là. Pas de frais de port, donc là c'est pareil, vente sur place, donc pas de frais de port. Ce qui quand même réduit considérablement le budget total de la journée quand on y va. Et souvent, c'est pas toujours, mais quand même souvent, il y a aussi la possibilité, un peu comme chez le disquaire d'ailleurs, t'en as pas parlé, mais on peut
d'écouter
sur place, c'est-à-dire que de tester, c'est-à-dire on peut se fier au cotage de l'état du vinyle par, je ne sais pas si cotage ça se dit, mais enfin,
la cote, quoi.
Enfin, le, comment on appelle déjà ça, le grade en anglais, bon bref, voilà, l'évaluation du disquaire de, voilà, sur son état, mais aussi on peut aussi écouter.
Oui, il n'y a pas que l'aspect visuel, parce que c'est vrai que des fois un très bel aspect visuel.
Ça cache parfois des mauvaises surprises.
Ouais, ça cache des mauvaises surprises avec un disque qui peut être exempt de rayures, mais qui a beaucoup servi, ou qui est très encrassé, ça ne se voit pas forcément, et le son peut être assez catastrophique. Alors, quand c'est encrassé, on peut récupérer, mais quand c'est un disque assez usé, ou lu avec des diamants de mauvaise qualité ou autre, ça se verra pas à l'œil nu. Par contre, votre disque, il va être pourri, quoi.
Ouais, c'est clair. Donc, voilà, rien ne vaut une bonne écoute au casque pour se faire une idée fidèle. Pour les désavantages, par contre, enfin, les petits moins de la convention, c'est en fait le revers de la médaille du premier point, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, voire trop de disques, en fait. On frôle l'indigestion, on peut s'y perdre assez facilement, donc un petit conseil, ayez des objectifs clairs quand vous vous rendez à des conventions, sachez un petit peu ce que vous allez chercher, sinon vous allez vite être noyé par la quantité de vinyle offert là-bas.
Oui, mais rien que pour reprendre celle de Nantes où on a eu l'occasion d'aller, comme vous le savez, il y avait combien ? Un million de disques à peu près.
Ouais, hein. Je crois à peu près. Ouais. Ouais,
donc voilà, si vous voulez passer tous un par un...
Il faut bien les deux jours et bien, l'argent, c'est pas non plus infini, ça pousse pas dans les arbres. Donc d'ailleurs, c'est le prochain un petit moins que je vais vous proposer, c'est attention au porte-monnaie. Fixez-vous un budget parce que de petites dépenses, on peut vite perdre les pédales et les comptes. Donc attention à l'atterrissage. Voilà, les prix sont comme chez les disquaires assez fidèles aux cotes. Et à moins d'un énorme coup de chance, vous ne ferez pas l'affaire du siècle en convention non plus.
Exactement.
Voilà, on va évoquer peut-être un autre nom, un autre endroit, c'est Internet, c'est
oui, ça ? Oui, Internet. Alors effectivement, Internet, à l'heure où au niveau des vinyles, ça revient un petit peu à la mode, on a vu fleurir différents groupes, différents sites qui vont permettre d'acheter. Alors là, ça va être une revue plutôt rapide, parce que un site comme Discogs, donc je vais rapidement aborder, on pourrait y consacrer une rubrique, ce qu'on fera peut-être. Alors... on peut acheter des disques un peu partout sur Internet, hein, je vais pas vous apprendre la chose. Moi, je vais faire un petit focus sur les groupes Facebook, eBay et Discogs. Alors, à tout seigneur, tout honneur, j'ai envie de commencer par Discogs, qui est une plateforme collaborative, aussi bien une banque de données gigantesque sur tous les albums qui existent et leurs différentes éditions. Alors, ça a commencé par être cantonné à l'électro, quand c'était créé par deux personnes, et puis petit à petit, ça s'est agrandi. Aujourd'hui, c'est des millions de disques qui sont rentrés avec toutes les éditions différentes qu'il peut y avoir, hein, je sais pas moi, un truc comme Sticky Fingers des Rolling Stones, il peut y avoir 480 éditions différentes et Discogs va essayer avec tous les participants qui viennent volontairement, bénévolement, hein, rentrer les différentes cotes, les différentes matrices, les différents logos qu'il peut y avoir, les petites similitudes, etc., etc. Et donc, pour chaque édition de ces disques, de ces albums, il y a un petit coin shopping un peu, hein, où il y a différents vendeurs qui vont les proposer à différents prix, des vendeurs qui sont notés, évalués, donc ça vous permet de voir ceux qui sont sérieux, ceux qui le semblent un peu moins, et puis donc voilà, vous allez voir Sticky Fingers, vous cherchez la première édition française, clac clac, en 2-3 clics vous y êtes, et vous allez pouvoir voir ensuite les vendeurs qui le proposent, suivant les différents états, donc good, very good plus, near mint, ouais, VG, NM,
ça mériterait qu'on fasse une chronique pour expliquer ce que signifient ces lettres-là.
Nous, on vous conseille de ne pas descendre en dessous de Very Good Plus, ouais. Parce que même Very Good, ça apparaît très bien, mais très bien, c'est pas si très bien, ouais, que ça, en fait. Hein, c'est souvent un peu dégueulasse.
La traduction littérale n'est pas forcément.
Voilà, donc VG Plus ou Near Mint, voire Mint. Ouais. Et puis après, il y a le prix, et puis il y a la politique du vendeur avec les frais de port qui décide d'ajouter ou pas. On peut acheter par PayPal. Donc, Discogs, c'est un peu comme les salons du disque, c'est-à-dire c'est infini, quoi. Vous pouvez y passer. C'est un nombre incroyable d'heures.
C'est vraiment la référence, ouais, en fait, ouais, ouais. Du vinyle, même globalement. C'est-à-dire pour coter un vinyle, c'est un peu la référence qui est utilisée par tous les disquaires qu'on a évoqués tout
à l'heure. Là, évidemment, vous ne ferez pas la trouvaille de folie non plus, mais il est possible de regrouper les frais de port auprès d'un vendeur. Il y a des vendeurs qui permettent de négocier différents titres. Il y a des vendeurs qui vont vachement baisser le prix pour une petite bêtise, moi j'ai un disque là, il y avait 2-3 traces de moisissure à l'intérieur et il a perdu 10 €, enfin, alors que c'était vraiment négligeable, quoi. Donc voilà. Ensuite, donc voilà, Discogs, mais on en reparlera. Et vous pouvez trouver des vinyles sur eBay, mais là, tout de suite, on franchit un stade et vous pouvez tomber sur des vendeurs qui vont être beaucoup moins connaisseurs ou beaucoup moins sérieux, qui vont partir du principe qu'un vinyle de toute façon ça grésille et qui vont vous vendre un truc qui vont trouver en bon état alors que sur Discogs ce sera à peine du good. Donc voilà, mais ça peut être aussi l'occasion de faire une petite trouvaille. Et puis il y a également, donc là pour revenir un petit peu rapidement sur les groupes Facebook, donc il y a 100 000 groupes Facebook de tout et n'importe quoi, et il y a des groupes Facebook avec des gens qui vont proposer des disques, soit de leur collection, soit des trouvailles qu'ils ont pu faire, etc. Donc si on regroupe un peu tout ça, on dirait que dans les points positifs on a un choix infini, il y a des sites spécialisés, il est possible d'avoir des avis, Discogs, il y a même des petites vidéos YouTube pour écouter les morceaux, savoir si ça va vous plaire ou pas, donc il y a vraiment une dimension exploratrice aussi. Les points négatifs, bon bah c'est les frais de port, parce qu'un disque bah c'est gros, c'est pas un CD, hein, donc très vite les frais de port ils vont être de 10-12 euros pour un vinyle, voire de 25 pour les États-Unis ou
ouais, voilà.
15
ça
pour
dépend beaucoup du
l'Italie.
Pays d'expédition, ouais. Et en fait sur Discogs c'est tellement vaste que on peut vite être amené à vouloir commander dans un pays qui est lointain ou même pas si lointain que ça, mais comme l'Italie par exemple,
l'Italie,
qui pratique des
frais
de port
là où vous
très,
allez
très,
payer
très, très, très
6 ou 7 euros en Pologne, vous allez en payer 15 à 18 en Italie,
voilà.
On sait pas trop pourquoi, c'est
donc la, forcément voilà. Bah, si vous rajoutez 18 euros à un disque qui en vaut 20, bah, vous voyez un petit
voilà.
peu le problème que ça pose au niveau du prix total. Donc soit vous en avez très 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 envie et ça vous pose pas de problème, mais la plupart du temps quand même on
ouais.
se pose quand même
ou
la question.
Alors à chaque groupé, mais il faut trouver un même vendeur qui va vous proposer effectivement
voilà.
pas mal de titres. Et puis des petits risques quand même, c'est de se retrouver avec un disque un peu rayé, tordu ou avec une pochette défoncée. Ou le risque aussi, c'est que le disque n'arrive jamais parce qu'il va s'être perdu en route, etc.
Ou parce qu'il y a un vendeur peu scrupuleux.
Oui.
C'est assez rare quand même ça, parce que
sur
Discogs, quand même l'avantage par rapport à eBay, tu l'évoquais tout à l'heure, il y a quand même un gap entre les deux, c'est que sur Discogs, c'est quand même un site de connaisseurs avec une communauté quand même qui participe à élaborer
qui remplissent la base de données,
etc. Donc il y a quand même une pression sociale, même
oui.
si c'est virtuel, un petit peu plus importante. Donc les gens qui vendent sur Discogs, ils doivent quand même se mettre un petit peu au niveau de connaissance,
alors
que sur eBay, c'est un petit peu
le
tout venant, donc on peut pas trop savoir sur quoi on tombe.
Après, des fois, sans faire de pub, mais si vous payez par PayPal ou autre, il peut y avoir quand même des systèmes de garantie,
de
remboursement, de retour, ce genre de choses. Mais voilà, c'est toujours un petit risque, comme toute vente par correspondance et tout ce qui est du marché de l'occasion, voilà, c'est toujours prendre un petit risque. Mais pour moi, je trouve que ça en vaut la chandelle quand même.
Ouais. Tout à fait. Et d'ailleurs, on utilise régulièrement.
Oui.
J'en viens maintenant au quatrième et dernier lieu pour acheter du vinyle d'occasion. On ne pouvait pas ne pas vous parler des vides-greniers, bien sûr.
Bien sûr.
Les vides-greniers, c'est sans doute le lieu le plus palpitant pour un chasseur de vinyle.
Ouais,
voilà.
C'est souvent par là où on commence une collection, en fait, presque. Hein, souvent.
En tout cas, moi, c'est par là que j'ai commencé. Là-bas, donc, tous les rêves sont permis. Il y a des mètres et des mètres de stands, les dimanches matins du printemps à l'automne. Des vendeurs particuliers qui se débarrassent de leur collection de vinyle ou de celle de leurs parents, sans connaître réellement la cote du disque d'ailleurs, qui sont heureux de voir partir, parfois à 2, parfois à 3 euros pièce. Voilà. On peut entendre des phrases comme « ça fait de la place dans le grenier, il y a encore des gens qui écoutent ces machins, et vous avez encore la machine et tout ?» Et si jamais vous aviez d'autres vinyles qui vous intéresseraient, je peux aller voir tonton Marcel pour lui demander ce qu'il a, voilà, enfin bref. Miam miam, c'est un régal quand on tombe sur des vendeurs comme ça. On a vraiment envie de tout le racheter d'ailleurs, hein, parce que quand à deux ou trois euros
d'entrée vers Churène.
Alors
je
c'est
suis
ça,
pas certain.
C'est ça. Là, t'anticipes sur les moins, c'est-à-dire qu'après, voilà, il y a à boire et à manger, mais enfin quand même, pouvoir mettre la main sur un vinyle à 2 ou 3 euros. Moi,
ouais.
Je trouve que ce qui est bien, c'est que non seulement ça fait pas cher pour ceux qu'on cherche, qu'on a la chance de trouver, ceux aussi qu'on sait qui sont un peu cotés, qu'on se dit tiens, c'est l'occasion de l'avoir pour pas cher, je le prends. Mais aussi, ça permet de faire des découvertes.
Ouais.
Avec un vinyle qui nous intrigue, autant chez un disquaire quand il est à 25 euros, on va se dire bon, je vais quand même écouter un peu sur internet avant de voir. Autant là, ça nous intrigue, c'est à 2 euros, on prend quoi. Et du coup, moi j'ai fait aussi plein de découvertes. Enfin, j'imagine que tous les collectionneurs de la Terre ont fait ce genre de découvertes en vide-grenier, des trucs qu'on n'aurait jamais pris auparavant.
Ça
mais...
peut devenir des références quoi. Enfin, moi,
ça peut devenir c'est...
des artistes que j'adore, que j'ai découvert parce que la pochette m'intriguait ou la composition du groupe quoi, avec du xylophone, des machins, du. Bon, voilà, ça peut...
Non, mais complètement. Donc, les plus, je viens d'en parler. Donc, des prix défiant toute concurrence. Donc là, il n'y a, a pas de concurrence, d'ailleurs. Voilà. L'adrénaline, d'ailleurs, le plaisir de fouiller aussi. Hein, parce que c'est vrai qu'on se promène dans un vide-grenier. Mais dans le vide-grenier, il n'y a pas que des disques. Donc, on est aussi à la recherche du bon carton, du vendeur qui va en avoir. On se dit, zut, ça se trouve, je vais faire toutes les rangées de vendeurs et personne ne va vendre du vinyle. Donc, si je viens que pour ça, bah, je suis venu pour rien. Tant pis, voilà. Donc, il voilà, hein, y a aussi des retours bredouilles hein, de vide-grenier. Il n'y a pas que des trouvailles fantastiques. Et dans les moins, eh bien, l'état du disque qui est extrêmement aléatoire. Hein.
Oh oui.
C'est-à-dire que là, on n'a même pas le feedback de d'eBay pour filtrer un peu les choses. Il n'y a pas de description forcément. Les personnes vont mettre ça dans des cartons, ils mettent un prix et puis ils s'engagent sur rien. Forcément, c'est du vide-grenier. Hein. Les disques sont parfois donc restés des décennies dans un milieu humide et trop chaud. Ils peuvent être déformés, rayés, etc. Impossible de tester les disques sur place à moins d'avoir une platine portable avec des piles. Enfin bon, bref, mais ça me semble quand même assez aléatoire. Donc il vous faudra parfaire, d'ailleurs ça pourra faire l'objet d'une autre chronique aussi, votre technique d'examen visuel d'un vinyle en vide-grenier pour éviter les grosses déceptions. Et on l'a dit tout à l'heure, même comme ça, le vinyle a l'air nickel, on le met sur la platine et c'est inaudible. Voilà. Voilà, préparez-vous aussi à voir défiler beaucoup de balmusettes et autres variétés françaises, hein, parce que c'est aussi ça le plaisir du digging, comme on dit, en vide-grenier, c'est qu'il y a un carton qui est rempli de vinyle, c'est super, c'est enthousiasmant, mais quand on s'approche, il n'y a que des trucs qu'on n'aime pas, qui sont pourris. Mais vous avez le droit aussi d'adorer le balmusette, hein, je ne veux pas non plus faire de snobisme sur ce genre musical, et si jamais c'est le cas, eh bien, ne
tenez
pas compte.
Heureux en vide-grenier,
voilà,
vous devez
être extrêmement heureux, ne tenez absolument pas compte de ce point faible et n'écoutez pas le suivant, puisque le suivant c'est que pour faire des affaires dans un vide-grenier, il faut se lever tôt.
Ah oui,
quand je dis tôt, voilà, c'est très 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 tôt, parce que dites-vous bien qu'avant le lever du jour, armé d'une lampe torche, certains collectionneurs assidus et surtout des revendeurs hein, qui ont bien compris qu'il y avait un bon filon à faire à la revente une fois qu'on a chopé, et d'ailleurs certains disquaires le font je pense, quand on a chopé des disques à 2 euros et qui en valent 20, eh bien, c'est quand même pas mal de les avoir pour les revendre après. Et ils auront déjà sollicité les exposants avant même qu'ils aient le temps de couper le contact de leur voiture en arrivant. Donc, quand vous allez arriver, bah, si vous vous levez tranquillement à 9h, 10h du mat et que vous arrivez comme une fleur, eh bien, sachez qu'il y a des grandes, grandes chances pour que toutes les meilleures affaires aient déjà été écrémées.
Sauf peut-être, moi je nuancerais un tout petit peu en disant peut-être que vous pouvez tomber sur des bonnes trouvailles à ces heures-là, mais sur des groupes très peu connus. Si vous cherchez du U2, Rolling Stone ou Beatles, c'est même pas la peine. Par contre, des petites perles un peu jazz-rock ou ce genre de choses, voilà, vous pouvez... parce que ça sera pas forcément prisé par les revendeurs, donc voilà, ça peut passer. Vous pouvez passer entre les gouttes avec ça.
Ouais, il y a aussi un autre bon plan vide-grenier pour se lever tard et faire des affaires quand même. C'est un truc qui nous est déjà arrivé d'ailleurs, Julien. C'est le fameux j'ai oublié les vinyles dans la voiture. Je vais les chercher à midi, voilà. Et donc vous avez une caisse de vinyles toute fraîche que personne n'a encore parcourue parce que personne ne connaissait son existence dans le coffre de la bagnole parce qu'elle avait été oubliée d'être déchargée. Et puis vous êtes le premier dessus alors que vous êtes levé super tard, vous
c'est
y croyez
rare,
plus du
c'est
tout
génial.
Et quand ça arrive c'est carrément génial, ouais, effectivement, voilà. Donc n'hésitez pas aussi en vide-grenier un petit truc à parler avec les vendeurs, parce que parfois cette caisse de vinyle elle est sortie juste parce que vous avez dit je cherche des vinyles, vous en avez pas, j'en avais une et puis j'ai oublié de la sortir, je savais pas que ça allait intéresser, etc. Quand on est passionné de vinyle, on a l'impression que ça intéresse tout le monde et que tout le monde ne pense qu'à ça, mais en fait il y a plein de gens qui font des vide-greniers et qui n'avaient même pas imaginé vendre des vinyles
et qui peuvent
à cette
très
vitesse.
Bien vous filer rancard pour que vous alliez chez eux récupérer la collection ou ce genre de choses.
Parce qu'ils ne pensaient pas que ça se vendrait, alors ils ne les ont pas pris parce que ça prend de la place. Et puis, mais c'est des choses qui arrivent.
Après, ça peut être une famille de serial killer ou autre, donc soyez prudents quand même.
Ça, c'est les risques du digging aussi. Hein. Ça peut être digging sa propre tombe, n'est-ce pas? Voilà, on en a fini avec cette première chronique dans l'émission, et puis chronique de l'année aussi, parce que c'est la première émission de l'année. On va enchaîner avec un petit peu de musique maintenant.
Exactement.
Allez, c'est parti.
We'll be right back.
Bon, et eh bien voilà, un artiste qu'on aime beaucoup tous les deux, Julien. Il s'agit de Billy Idol. On aurait aimé quand même lui rendre un peu plus hommage à Billy Idol. On a bien l'impression que depuis tout à l'heure, en fait,
Vous n'avez pas l'impression d'écouter la radio dans votre piscine ou quelque chose comme ça parce que...
des petits problèmes de son, en fait.
Ça vient de loin.
J'ai l'impression que ça vient de très, très, très loin. Ouais. En fait, pour tout vous dire, j'ai l'impression qu'on a, en fait... qu'une seule voix stéréo, voilà. Donc un petit problème technique pour ce début d'année, c'est comme ça qu'on commence bien l'année, pas vrai ?
Ouais, mais on est des warriors parce qu'on continue.
On continue quand même, on va faire avec parce que de toute façon on n'a pas le choix. Mais voilà, bon, mais écoutez, on s'excuse hein, pour la qualité sonore des morceaux de cette émission.
On va essayer d'identifier le souci pour pas que ça se reproduise.
Complètement. Là, on est un petit peu dans le flou, on ne sait pas ce qui se passe, mais on va quand même parler des disques, hein, et puis on aura l'occasion de les repasser. On va peut-être faire une émission de rattrapage. Non, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler le problème, et pour le podcast, on va mettre que des trucs super clean. Et comme ça, ce sera mieux. Du coup, personne en écoutant le podcast ne comprendra ce qu'on est en train de dire en ce moment.
Oui.
Bon, bref, tout ça, c'est trop de.
Ça
devient trop cérébral. Donc, Billy Idol, un artiste qu'on aime bien tous les deux. William Broad, de son vrai nom. Il a été membre de groupes punk, tels que Chelsea ou Generation X. Puis artiste solo à partir de 82, l'influence punk, du coup, ça a un petit peu dilué hein, dans ce qu'il a fait en solo. On vient de l'écouter là. Eyes Without a Face, un morceau moi, que j'aime beaucoup, qui est certainement mon préféré de Billy Idol. pour des raisons vraiment purement affectives, plus affectives que musicales en tout cas. Voilà, moi c'est cet album-là qui, sur lequel est Eyes Without a Face, qui s'appelle Rebel Yell. Je l'ai chopé du coup à la convention de Nantes, en mode je veux cet album pour un seul titre qui est dessus, et c'était celui-là quoi. En fait, pour tout te dire, Julien, je ne savais pas. Je connaissais très mal en fait les autres titres de cet album et j'ai été assez agréablement surpris. Du coup, je suis assez content de l'avoir, cet album-là. Au-delà de ce titre qui était pour moi très très marquant parce que je l'ai entendu, je crois, toute ma vie, ce morceau-là. Il est sorti en 83, comme moi, du ventre de ma mère. Donc c'est peut-être le premier morceau que j'ai entendu et du coup, chaque fois que je l'écoute, je le trouve intemporel en fait. Je trouve qu'il a pas pris une ride, ce qui est quand même assez rare quand même pour les morceaux des années 80.
Oui. Globalement. Surtout que là, il use et l'abuse des artifices et de la production de l'époque. Donc c'est vrai, de réussir à ne pas vieillir, ou de sembler ne pas vieillir avec tout ça, c'est quand même une sacrée gageure.
Ah, bah, j'ai l'impression que c'est un morceau qui peut se retrouver dans une bande originale de film d'aujourd'hui et tout, et puis ça le fait, quoi.
Parlant de film, Les yeux sans visage, c'est peut-être un lien avec Franju, le film de Franju.
Peut-être, je sais pas. Ça, je sais pas. J'ai pas le background de l'écriture de ce morceau, mais enfin, c'est pas interdit de le penser en tout cas.
Ah, c'est vrai que ouais, Billy Idol, moi je le trouve éminemment sympathique, issu du Bromley Contingent, ce petit groupe de bonhommes qui sautaient partout au concert des Sex Pistols, avec Siouxsie notamment, et qui sont tous partis ensuite former chacun de leur côté des groupes. Alors Billy Idol, beau gosse, la grimace, le rictus étudié et tout ça, on a eu tôt fait de le traiter de punk un peu en carton, et c'est vrai que la suite de sa carrière solo montre que effectivement le côté punk, abrasif, rebelle, malgré les titres de ses albums, est peut-être un peu moins présent, mais c'est quand même un bonhomme qui ne s'en laisse pas compter. J'en veux pour preuve que pendant très longtemps il a rien publié, et c'était pas un choix personnel, c'était parce que son label s'était fait racheter par une major qui était impliquée en bourse avec je sais plus quoi, qui était lié aux essais nucléaires. Et ben tant qu'il a été sous contrat, il a absolument rien voulu entendre de tout ça, et donc il ne publiait plus rien du tout. Et en parlant donc de Billy Idol, j'ai quand même envie de parler aussi de l'album Cyberpunk, qui était son dernier album avant donc cette grosse pause, bon, qui n'est pas lié qu'à cette protestation contre la major qui avait racheté son label, hein, puisque il y a eu aussi un accident, il y a eu aussi des soucis de désintox, etc., etc. N'empêche, voilà, au début des années 90, Billy Idol fait une partie de jeu de rôle, d'un jeu de rôle qui s'appelle Cyberpunk, et ça le choque tellement, enfin ça l'influence tellement, qu'il va sortir un album presque destiné à faire jouer à l'époque, hein, un album qui s'appelle Cyberpunk, qui est extrêmement intéressant, qui par certains côtés a vieilli mais reflète l'époque et reflète le futur tel qu'on l'imaginait à l'époque, qui va pas avoir trop de succès et qui est pourtant vraiment une superbe galette que je vous encourage à aller écouter.
Je crois qu'elle se collectionne pas mal, enfin elle s'échange pas mal dans le cercle des rôlistes, hein, je crois.
Oui, parce qu'effectivement, surtout à l'époque, je pense peut-être un peu moins maintenant, mais ça servait vraiment à mettre de l'ambiance dans les parties de jeu de rôle, puisque c'était quasiment ça portait le nom du jeu, quoi. Donc voilà, un peu futuriste, un peu avec de l'électro, un peu voilà, et il est génial ce disque parce qu'il suinte l'enthousiasme du joueur de jeu de rôle, mais qui en même temps est un artiste et qui est tout de suite a envie d'investir ça avec son art et son talent. Et il y a une naïveté en même temps, un peu, je trouve, qui est vraiment géniale.
Ah, moi j'ai écouté quelques morceaux de Cyberpunk. Ah. Je trouve que le plus gros défaut de Cyberpunk, c'est d'être sorti trop tôt, je pense.
Oui,
parce que maintenant ça fait beaucoup plus, enfin on est beaucoup plus attentif et beaucoup plus disponible à ce genre de musique, alors qu'à l'époque je pense que ça bousculait un peu les codes.
On n'avait pas encore toute la vague indus metal, rock industriel qui était passé par là, Manson et compagnie. C'était 5-6 ans avant. Il y avait un peu Nine Inch Nails, mais c'était encore un peu confidentiel. C'était bien avant l'explosion Closer et Downward Spiral, effectivement. Peut-être trop tôt.
Je pense. Mais sinon, c'est tout à fait qualitatif. Est-ce que tu savais aussi que Billy Idol, puisqu'on a les anecdotes, est-ce que tu savais qu'il avait été... qu'il était le premier choix, en fait, pour jouer le méchant dans Terminator 2?
Oui. C'est là où il a eu son accident.
Et c'est à ce moment-là qu'il a eu l'accident de moto qui l'a empêché.
J'ai dû faire le T-1000.
J'ai lu ça avec... avec malice un petit peu, avec plaisir dans quand j'ai fait un peu les recherches sur ce qu'il avait fait. Donc je dis ça juste pas simplement pour l'anecdote, mais je dis ça parce que Billy Idol, c'est quand même quelqu'un, je trouve, qui est on a l'impression qu'il a eu 10 000 vies, quoi.
Oui. Il a joué dans Tommy aussi, des Who.
Il a joué, je crois, aussi dans l'adaptation des Doors, je crois, aussi. Il a fait une apparition au moins, je crois. Ouais. Enfin, c'est assez intéressant quand même. Un mec qui touche à tout et on a l'impression qu'il écoute vraiment ses envies. Ça, c'est peut-être le côté punk qu'il l'a suivi, le côté je calcule pas, je fais ce que je veux, ouais. Et puis comme je veux, même si tu vois, je me pose pas la question de la crédibilité ou de la légitimité, j'ai envie, je le fais, et puis on voit bien ce que ça donne, quoi.
Et son tout dernier là de 2014, King and Queens of the Underground, est plutôt sympa. Il y a un petit côté heavy, voilà, bon, c'est pas mais ça, c'est quand même vraiment, il y a des très bons morceaux. Bon, je vous encourage à l'écouter.
Et voilà, on espère que ça vous aura donné en tout cas envie de poursuivre votre découverte de cet artiste, hein, Billy Idol, qui est quelqu'un qu'on aime bien. Même si pour beaucoup, peut-être ça fait un peu ringard d'aimer bien Billy Idol, mais moi j'assume carrément parce que voilà, ça fait ringard parce que les années 80, ça fait toujours un peu.
Sauf qu'on est en train d'y revenir. Hein,
mais on est en train d'y revenir quand on écoute ce qui peut passer dans des séries comme Stranger Things, tout ça, où tout le monde dit waouh, la BO de folie dans Drive et compagnie. Ouais. On se dit que voilà, ils prennent un peu leur revanche, hein, ces artistes-là. Ouais. Voilà, bon, écoutez, on va pas insister trop ce soir, vous l'aurez compris, au niveau de la musique, on a beaucoup beaucoup parlé parce que ça nous fait pas trop plaisir en gros de vous passer de la musique avec un son de merde.
Ouais. Donc un son de piscine, ouais, le grand bleu.
De piscine, c'est peut-être plus poli, mais enfin dans tous les cas, c'est pas le top du top. Mais c'est pas grave, écoutez, hein, on a beaucoup beaucoup d'émissions pour prendre du plaisir ensemble au niveau acoustique. Donc on va dire qu'on va passer directement, là il est 23h48, on peut passer directement à l'interview qui, je crois, va connaître beaucoup moins de problèmes de son parce que voilà, elle n'est pas enregistrée pareil. Cette semaine, pour cette 9e émission, on va écouter l'interview de Steven, je crois que ça se dit, alias Monsieur Boucan, qui est un des DJ du collectif des mixtapes de l'apéro. Est-ce que tu les as déjà entendus, Julien, les mixtapes de l'apéro?
Oui, un petit peu, à la guinguette.
Au Héron Carré. C'est ça, ils ont fait quelques petites mixtapes là-bas avec des ventes de disques en plus en parallèle. C'était vraiment un super super moment. Ils sont hyper sympas, hein, les gars des mixtapes. Donc j'ai pas interviewé que Steven, j'ai interviewé aussi DJ Spock qui fait partie aussi des mixtapes. On a interviewé qui s'est passé dans une ancienne émission, Arnaud aussi, Boogie Bass, qui aussi fait partie des mixtapes et qui mixe régulièrement. Donc voilà, l'interview de DJ Spock elle viendra un peu plus tard dans les émissions. Là, pour ce soir, c'est donc Steven, Monsieur Boucan. Nous, on vous dit à dans 15 jours. D'accord, on vous renouvelle nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Hein.
Et puis, ce sera notre 10e. Donc
ce sera notre 10e.
On ne fêtera pas ça spécialement, mais on
le dira quand même. Ouais. Alors, on le marquera. Et puis, on va le fêter avec du son de qualité. Pour
ce serait pas mal.
Parce que voilà, on vante la qualité du son des vinyles. Mais si c'est pour les passer avec ce rendu-là, c'est pas cool. Donc voilà, nous, on démarre l'année avec ce petit couac technique, mais avec beaucoup de bonne humeur et avec du coup... l'envie de se rattraper la prochaine fois. Allez, bye bye.
Bye bye.
Merci à toi de te prêter au jeu de l'interview du Manche Disque. Ça fait plaisir de te recevoir. Je vais te laisser te présenter peut-être pour nos auditeurs et notamment un projet dont j'ai eu l'occasion de profiter qui s'appelle les mixtapes de l'apéro. Je te laisse peut-être en parler et puis d'autres choses si tu le souhaites.
Merci de m'accueillir. Donc du coup, en effet, je fais partie des mixtapes de l'apéro, qui est un collectif de DJ qu'on a créé il y a 8 ans maintenant et qui a pour objectif de diffuser des mixtapes, comme l'indique son nom, qui sont des sélections plutôt de sons groovy, funky, des choses qui viennent aussi d'Afrique, d'Amérique du Sud, voilà, des... essentiellement fait par des collectionneurs de vinyles, pas uniquement, mais en général ce sont des sélections quand même de disques, en tout cas d'amoureux de la musique. Ouais. Voilà, donc on a créé ça il y a quelques années, parce qu'on est aussi un collectif de DJ qui est actif à Angers, mais aussi à Montpellier, où on a une émission de radio sur Radio Clapas, et à La Rochelle, à Nantes, en fait on a des émissaires un peu partout, et parfois on se regroupe et on a l'habitude de, quand on mixe sous le nom des mixettes de l'apéro, de mixer ensemble. Après moi je mixe aussi tout seul, mon blaze c'est Monsieur Boucan, Narfa, j'ai deux blazes. Je suis en changement, j'ai une identité en pleine mouvance. Et je fais aussi partie d'un autre collectif qui s'appelle le Chroma Club, où là on mêle vidéo et son. Et on mixe pour le coup vraiment plutôt sur Serato, en tout cas pas vinyle. Mm-hmm. On utilise plutôt la technologie justement pour mêler musique et son. Et c'est aussi intéressant.
Ok. Nous on va rester plutôt dans le secteur du vinyle, hein, parce que c'est un petit peu le thème de l'émission. Le vinyle qui est justement peut-être le succès des mixtapes de l'apéro, en tout cas les DJ mix, etc. Ça favorise aussi, ça à rendre visible aussi un support qui est en plein retour là, en tout cas qui occupe un peu le devant de la scène des supports musicaux. Comment tu t'expliques ce retour en force du vinyle?
En fait, je pense surtout que le MP3 a tué le CD, et donc on a le choix aujourd'hui entre du tout dématérialisé, même voir un point où on fait appel à des plateformes, on n'a plus de stockage, on est vraiment sur quelque chose qui est accessible qu'en ligne. Et l'autre extrême, le plus grand support, celui qui est le plus agréable à la fois à l'écoute, à la manipulation, au regard, ça reste le vinyle. Donc je pense que ce qui était entre les deux, qui est la cassette et le CD, sont un peu balayés en fait par un support qui s'impose, parce qu'il y a le visuel aussi qui est derrière. Voilà.
Quoique il paraîtrait que la cassette prépare son grand retour, là ça commence déjà un petit peu à faire parler. Donc pour toi, voilà, contre-réaction de la dématérialisation par son contraire en gros, qui serait le vinyle, quoi.
Bon, ouais, c'est ça.
Ok. Ta première expérience, toi, en tant qu'auditeur d'un disque vinyle, est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu peux nous la raconter?
Je me souviens très petit, en fait, d'avoir eu des vinyles entre les mains. Toutes les 45 tours, en fait, je m'en rappelle vraiment. Et je pense que ça me reste encore aujourd'hui, en fait. C'est un support que j'aime bien, c'est un peu joué, quoi. Et je me rappelle aussi que... J'ai un oncle et une tante qui avaient une vraie collection de vinyles bien rangée dans un meuble avec une vraie hi-fi et ça me fascinait déjà. Donc mes premières écoutes, elles sont là, et peut-être du rock, je pense. Il écoutait pas mal de rock, mon oncle. Donc du coup, les Doors, enfin des choses classiques, les Beatles, enfin voilà. Un sens de l'esthétique aussi dont je me rappelle, quoi. Voilà, c'était un sample, hi-fi, vinyle. Ouais,
ouais. C'est très très associé souvent à cet objet, effectivement, ouais, l'esthétique. Est-ce que tu te souviens, donc peut-être quelques années plus tard, du premier disque vinyle que tu as acheté avec ton argent?
J'ai acheté de la musique, j'ai commencé à acheter de la musique vraiment au début des années 90, en étant au collège en fait. Donc j'achetais pas de vinyle, j'achetais surtout des cassettes en fait à l'époque. Après là, vraiment, il y a eu des trucs fondateurs, quoi. Moi, je me rappelle de mes premières cassettes, ma cinquième, je me rappelle de Delight, de Marcus Garvey, de Burning Spear, hein, une grande chance. Et de MC Hammer. You can't touch this. C'est trois trucs qui après me sont restés. Et après, sur le vinyle, je suis venu beaucoup plus tard, au début des années 2000, je pense. J'ai acheté un lot de 45 tours, et dedans, il y avait Machine Gun des Commodores.
Est-ce que tu te définis comme un collectionneur?
Oui ou non, en fait, oui, parce que... Enfin, disons non, d'abord, parce que je pense que les... Il y a des gars qui sont quand même à la limite de la psycho, quoi. Hein. Je veux dire, je garde pas tout, voilà. J'ai pas envie d'avoir tout. Voilà, la musique, c'est trop immense. Ce que j'ai envie d'avoir, c'est une sélection, vraiment, de... Tu vois, une collection où je peux sortir n'importe quel disque, et là, je me dis, c'est quelque chose que j'aime. Et donc, ça, pour moi, ça suppose que les disques tournent en permanence. parce que je fais plein d'erreurs dans mes achats, je me gourre, je croyais que, et en fait c'est pas ça. Et donc j'aime bien cette idée du stock qui bouge, et à un moment donné aussi d'avoir quand même une sélection que j'aime, quoi, de A à Z.
Ok, bah merci beaucoup Steven pour cette interview. Le rituel, c'est que l'invité a le plaisir de choisir le dernier morceau de l'émission.
C'est un disque, c'est un 45 tours d'un groupe qui s'appelle les Fantastic Five, avec un titre qui est Come Together, qui est un titre très disco. Alors c'est un 45 tours sud-africain en fait, que j'ai acheté en Hollande, à Utrecht, il y a 3-4 ans. J'achète un disque africain en Hollande, déjà c'est complètement improbable, et je tombe sur ce bac qui est dans le coin à droite, avec deux africaneurs qui n'avaient pas l'air très attirés par la musique black en fait. Là tu commences à plonger les mains dedans et tu comprends qu'il y a quelque chose, et là t'as la petite montée d'adrénaline, tu vois, et ça représente vraiment ça. Ah, et donc quand je l'ai écouté derrière, j'étais super content, quoi. Voilà, ouais. J'en ai sélectionné une dizaine et celui-là je l'aime beaucoup.
Eh ben écoute, on va essayer d'avoir la même montée d'adrénaline à l'écoute. Merci encore Steven. Salut.
Merci.